salut les sportifs et les sportives, j'espère que vous allez bien. Je suis Éloi Touault, l'animateur pour ce deuxième podcast Planète Sport par la rédaction des Olympistes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, les Olympistes, c'est un média d'actualité sportive principalement composé des étudiants de l'académie ESJ Lille. Aujourd'hui, sur le podcast Planète Sport, c'est encore un beau programme qui nous attend avec notamment deux débats, la chronique en pleine mer sur le Vendée Globe et on reviendra également sur cette semaine un peu folle de l'équipe de France féminine de football. 40 minutes de sport sans effort, c'est ce qu'on vous propose pour cette émission. Allez, c'est parti! On vous l'avait promis la dernière fois, nous reviendrons bien sûr sur chaque émission pour faire un point sur l'évolution de la course du Vendée Globe. Pour rappel, le Vendée Globe s'était lancé le 8 novembre dernier depuis les Sables d'Olonne en Vendée et cela fait maintenant près de 15 jours que nos 33 skippers sont partis en mer. Alors entre abandon et surprise au classement, je crois qu'il s'en est passé des choses sur la course. Tristan Van Uxem nous résume tout ça dans la chronique En pleine mer.
Moussaillons, tenez-vous prêts, c'est la chronique en pleine mer sur le Vendée Globe.
Les 15 premiers jours de ce 9e Vendée Globe se sont déjà écoulés et les skippers s'approchent du cap de Bonne-Espérance, premier point de passage obligatoire de la course. Leader attendu et parmi les favoris pour la victoire finale, Thomas Ruyant prend les devants de la flotte à bord de son Imoca Linked Out. Il mène la danse sans pour autant réussir à creuser un réel écart avec Charlie Dalin sur Apivia. Ce dernier, pour sa première participation, répond présent d'entrée de jeu. Il confirme les espoirs placés en lui par son collègue et ancien vainqueur du Vendée en 2013, François Gabart. Alex Thompson a quant à lui cédé sa première place samedi et a considérablement ralenti à cause d'importants problèmes structurels sur son Hugo Boss. Le skipper a bien fait d'inspecter son bateau avant d'arriver sur les mers du Sud. Il répare donc son Imoca en laissant filer les deux leaders et accuse déjà plus de 200 000 de retard sur le duo. Légèrement derrière le trio de Foiler, c'est LA surprise de ce début de course. Jean Le Cam aborde son Yes We Cam, qui est le seul bateau sans foil du top 10. Le skipper de 61 ans fut d'abord leader de la course, grâce à une stratégie osée mais payante lors de la première semaine, en choisissant de se diriger vers le sud, qui l'a propulsé dans les premières positions du classement. Il fut ensuite dauphin d'Alex Thompson plusieurs jours durant. L'expérimenté Quimperois, qui participe à son 5e Vendée Globe, impressionne et affirme sa volonté de briller lors de ce tour du monde.
Il dit ça, il me dit « Bien dire fait rire, bien faire fait taire ». Après, derrière, je vais les voir s'enfiler, hein, mais bon, tant qu'à faire, papy fait de la résistance, quoi.
Il est talonné par la meute d'Imoca à Foils, la génération 2016, incluant Samantha Davis, Herman, Escoffier, Louis Burton, Bestaven et Simon, qui ne demandent qu'à rattraper le trio de tête. Une troisième partie de la flotte s'éparpille derrière ce groupe. On y retrouve les skippers sans foil s'ayant impressionnés lors de la première semaine, choisissant eux aussi de se diriger vers le sud, tels que Romain Tanasio, Maxime Sorel avec VNB Mayenne, ou encore Benjamin Dutreux sur Omiya Water Family. Véritable miraculé de ce Vendée Globe, lui qui a bien failli ne jamais prendre le départ à cause d'un problème de sponsor. Se mêlent à ce groupe d'autres foilers, comme Isabelle Josque sur MACSF, mais aussi Alan Roura avec La Fabrique. Tous deux décevants, on les attendait beaucoup mieux placés au vu de leurs aptitudes et de leurs bateaux. L'Everest des mers ne fait cependant pas que des heureux, peuvent en témoigner Fabrice Amedeo, à bord du New Rest Arrêt Fenêtre, et Jérémy Bayou sur Charal. Tous deux victimes d'avarie sur leurs Imoca ont décidé de faire demi-tour et de rentrer au Sable d'Olonne afin de réparer leur bateau pour mieux repartir. Fabrice Amedeo, forcé à faire demi-tour à cause d'un problème de hook lors de la première journée, est reparti 3 jours après le départ officiel et a réussi à refaire son retard en recollant avec l'arrière de la flotte. C'est une autre histoire pour Jérémy Bayou, quant à lui victime de plusieurs soucis sur son Imoca. Il est rentré au port samedi dernier et est reparti avec 9 jours de retard sur le reste des skippers. Déjà forcé d'abandonner sur 2 de ses 3 précédentes participations, c'est un sacré coup dur pour lui, qui était l'un des favoris de ce 9e Vendée Globe. Il ne baisse pourtant pas les bras et s'efforce de réduire l'écart, même si une victoire finale semble plus que jamais hors d'atteinte. A noter également l'abandon de Nicolas Troussel sur l'Imoca Corum-l'Épargne, qui a dématé au large du Cap Vert. C'était sa première participation au Vendée Globe. Tout comme Damien Seguin, skipper à bord du groupe Apicil et premier skipper handisport de l'histoire du Vendée Globe. L'actuel 12e au classement rappelle à quel point cette course est exceptionnelle et unique avant le départ.
Il y a moins de marins qui ont terminé le Vendée Globe que d'hommes qui sont allés dans l'espace, donc ça montre bien aussi la difficulté de pouvoir réaliser ce pari.
Thomas Ruyant, le petit chouchou chez les Olympistes, fait un départ tonitruant. Le nordiste étale sa classe durant ses 15 premiers jours de course. Il s'exprimait samedi dernier lors d'une vacation, faisant part de son bon état d'esprit vis-à-vis de la concurrence avec Thompson et Dalin.
Ouais, ça se tire la bourre, c'est stimulant et en même temps, il y a quand même une belle pression là, qu'on est en train de se mettre entre nous trois. Hein. Les bateaux sont proches en vitesse. Tu peux voir le dernier là, classement là, encore, mais ouais, ça se tire bien la bourre et tout ça très proche dans le même système vidéo. Moi, je suis très content là d'être là où je suis là dans le trio de tête pour attaquer la fin de l'Atlantique Sud et peut-être le début de l'Indien, mais c'est bien de pouvoir attaquer cette suite du parcours dans ce trio et avec que des quarts, c'est très bien.
Merci Tristan pour ce résumé de ces deux premières semaines de course du Vendée Globe qui effectivement ont été un peu dingues. On vous donne bien sûr rendez-vous sur le prochain podcast pour une nouvelle chronique en pleine mer et continuez à suivre l'évolution de cette course mythique. On passe maintenant à notre premier débat, je sais que vous l'attendez tous avec impatience. Alors aujourd'hui, avec la rédaction des Olympistes, on a décidé de parler vélo et notamment du mercato de nos équipes cyclistes françaises. Allez, jingle!
Mais tu dis n'importe quoi.
On a le droit de pas être d'accord. Je vais te rentrer aussi dans la gueule.
Tu veux toujours avoir raison.
Mes amis.
Ça c'est des faux débats.
Alors pour ce premier débat du podcast, on va parler vélo, mais également affaire avec le mercato cycliste. La saison s'est finie avec la victoire finale de Primoz Roglic à la Vuelta, mais le mercato était encore bien sûr animé jusqu'au week-end dernier avec de très belles surprises, notamment dans les équipes françaises. Justement, l'occasion pour nous de faire un petit point sur le mercato de nos équipes Continental Pro et World Tour. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter la belle équipe autour de moi pour ce débat. J'ai le plaisir d'avoir au téléphone Mathieu Eman. Salut Mathieu, ça va ?
Ça va, la forme, confiné, mais la forme quand même.
Mais également Marie Jolie, salut Marie, ça va ?
Ça va super Eloi, un plaisir d'être ici.
Et enfin Hugo Saez, salut Hugo, la forme ?
Salut Eloi, la forme.
Alors ma première question elle est relativement simple. Quelle équipe a fait le meilleur mercato selon vous ? Je te donne la parole Mathieu.
Parmi les équipes françaises, je trouve que Total Direct Energy a fait quelque chose d'intéressant. C'est peut-être pas le mercato le plus intelligent de tout le peloton mondial, de toutes les équipes mondiales, mais je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient laissé partir Rein Taranae, parce que c'était quand même quelque chose, un coureur assez conséquent dans la masse salariale de l'équipe, sans forcément apporter des résultats extraordinaires. Et derrière, ils récupèrent les trois bons grimpeurs d'AG2R, Pierre Latour, Alexandre Geniez et Alexis Vuillermo. Il faudra y relancer parce qu'ils sont pas au niveau qu'ils ont pu être dans le passé, mais je pense que s'ils y réussissent, ça peut faire quelque chose de très intéressant. Et surtout que bon, soit est-ce que ça peut pas être pire que leur effectif peut pas être pire que ce qu'ils ont aligné cette saison, notamment sur le Tour de France, donc je pense que ça peut être que du positif du côté de Jean-René Bernadot.
Oui, je suis totalement d'accord. J'avais coché Total Direct Energy dans les meilleurs mercato. C'est vrai que les dernières saisons, l'effectif était assez faible. Et là, on repart sur quelque chose de vachement intéressant avec Pierre Latour. On sait, maillot blanc du Tour de France 2018, c'est assez solide. Et puis, tu rajoutes des coureurs comme Boissenhagen. Il y a un coureur qui s'est gagné, qui est vraiment un coureur intéressant. Avec en plus Bonifacio, qui la saison dernière était un peu le seul à pouvoir de temps en temps ramener quelque chose. Donc ouais, vraiment mercato intéressant de la part de Direct Energy, et c'est vrai que ça faisait plusieurs saisons que j'avais pas eu autant envie de suivre cette équipe-là.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'on dit les gars, dans le sens où voilà, c'est une équipe qui va falloir surveiller cette saison. Je sais pas, hein, elle va peut-être pas non plus rivaliser avec les meilleures équipes du peloton, mais en tout cas oui, c'est intéressant dans la mesure où comme ils l'ont dit, je vais pas répéter pardon tout ce qu'ils ont dit, mais ils apportent une nouvelle dynamique à l'équipe qui clairement a réalisé sa pire saison, disons-le. Donc ça pourrait pas être pire que ce qu'ils ont fait. Mais j'avais aussi coché AG2R Mondial, qui a fait selon moi un mercato, qui a décidé de changer de physionomie, qui ne se concentre plus du coup autour d'un leader qui était Romain Bardet, et qui va entre guillemets s'élargir avec d'autres coureurs comme Greg Van Avermaet ou même Bob Jungels, qui sont selon moi des coureurs qui peuvent être performants sur les classiques. Et c'est pourquoi je pense qu'AG2R a fait un meilleur recrutement que Total Direct Energy.
Ok, moi je voulais juste revenir, désolé Marius, sur Direct Energy. Donc là, oui, effectivement, ils font un mercato assez propre avec de beaux noms. Après, on verra ce que ça donne sur le vélo. Moi, il y a un truc aussi à souligner chez Direct Energy. Ils perdent Lilian Calmejane. Moi, je trouve que c'est un coureur qui était aussi surcoté. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que de construire le projet sur d'autres coureurs que Lilian Calmejane ?
Oui, évidemment. En plus, il va chez AG2R la mondiale, pour le coup, Lilian Calmejane. Mais c'est vrai que, ouais, il y avait pas mal d'espoir sur lui. Pas forcément les résultats espérés. Construire face à avec des coureurs qui savent gagner, comme Boissonnaguen, on l'a dit, comme même Chris Lelest, on n'en a pas parlé, mais qui est vainqueur du Tour du Yorkshire, qui est encore assez jeune. Ouais, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Autant les séparations, comme tu le dis, Mathieu a souligné le départ de Taramae, tu soulignes le départ de Calmejane, c'est plutôt pas mauvais, et les arrivées derrière pour compenser sont vraiment bonnes, je trouve.
Ouais, je pense qu'il se libère un peu d'une ligne en cas de jeune dépendance sur certaines courses. Donc, en soi, oui, je pense que c'est une bonne idée de l'avoir laissé partir au même titre que Rein Farahamai. Je pense qu'il a eu, je pense que oui, c'est un bon choix. Après, pour revenir sur ce que Hugo disait sur AG2R Mondial, moi, j'aimais quand même de grosses réserves sur la Mercato parce que tu vas chercher un Greg Van Avermaet qui va avoir 36 ans en mois de mai. Je vais chercher Bob Jungels, ok, ça peut t'apporter une certaine certains résultats, mais en soi, j'ai plus l'impression qu'ils subissent un changement de projet que vraiment qu'ils décident un changement de projet en fait. Ils se rendent compte que bah leur principale victoire, ça venait de quoi? Ça venait des Coupes de France avec Samuel Dumoulin qui est à la retraite. J'ai pas le sentiment qu'ils aient vraiment cherché à le remplacer parce que bon, Damien Touzet et Marc Sarraut, je suis pas des plus convaincus, même si Marc Sarraut sur une Coupe de France, ça va être pas mal, et Bardet, enfin, il plafonne, il sera jamais capable d'accrocher un grand tour, même une course d'une semaine à son palmarès. Donc, je pense que c'est plus voilà un changement avec le temps plutôt qu'un changement, une véritable volonté de changer de stratégie, quoi. Et même s'axer sur les classiques avec un coureur qui a 36 ans, même s'il est bien avec Michael Schaar dans ses bagages, je suis assez dubitatif. Et pareil, tu as parlé de Lilian Calmejane, je pense pas qu'il fera grand chose avec cette équipe là.
Mathieu, je suis assez d'accord avec toi sur une partie de ce que tu dis. Là où je suis pas d'accord, c'est que certes sur le long terme, il n'y a pas vraiment de projet sportif, voilà, comme tu l'as dit, des coureurs qui sont assez qui ont de l'ancienneté dans le peloton, comme Greg Van Avermaet. Mais sur le court terme, c'est quelque chose qui peut être bon pour une équipe de gagner une course ici et là. Tu as parlé notamment de Marc Sarraut. Marc Sarraut sur l'équipe de France, c'est ce qui se fait de mieux. Moi, je pense que sur le court terme, ils peuvent en fait, entre guillemets, prendre de la confiance, emmagasiner tout ce qu'ils peuvent avec des victoires, des bonnes performances ici et là. Et après, pour relancer un projet d'ici 2, 3 ans avec des coureurs un peu plus jeunes, en renouvelant l'effectif.
Je le conçois aussi, mais d'un autre côté, moi, je suis un coureur comme Benoît Cosnefroy. Je suis un des meilleurs coureurs français sur les classiques. Je suis le mec le plus intelligent du peloton qui voit la course comme personne. Et je vois que mon équipe, elle va chercher un gaillard de 36 ans. Je me pose quand même des questions sur la confiance que l'équipe m'accorde. Hein. Je sais pas ce qui se dit vraiment en interne, mais je vois mal comment l'équipe pourrait tourner avec Van Avermaet, Jungels, Calmejane dans une certaine mesure, plus Benoît Cosnefroy, plus Oliver Masson en plus. Donc un peu, je trouve qu'ils sont beaucoup de cartes, mais qui sont pas forcément un bon atout.
Et ouais, ce que tu dis, c'est intéressant, Mathieu. Effectivement, alors oui, ils se concentrent sur des courses de un jour, mais ils sont pas non plus allés chercher le gratin du peloton. Van Avermaet, il va pas non plus durer 20 ans. Oliver Masson, bon, il fait une bonne fin de saison, mais c'est assez régulier, je trouve. Est-ce que en fait AG2R la mondiale est peut-être un petit peu sur le déclin. Alors oui, il y a Benoît Cosnefroy, mais c'est quand même une équipe qui fait moins rêver que les saisons précédentes.
Ouais, après moi c'est vrai que ça fait un peu moins rêver, mais quand tu prends Van Avermaet, il a beau être assez vieux, je sais pas si tu pouvais aller vraiment pour une équipe comme AG2R la mondiale aller chercher encore un cran au-dessus. Et au final, oui, tu multiplies les cartes, mais c'est vrai que pour comme le dit Hugo, pour relancer l'équipe sur un nouveau projet, pour faire un peu des victoires d'étape cette saison, moi je me dis pourquoi pas. Après, il va falloir forcément dans les prochaines saisons aller un peu plus loin s'ils veulent avoir un projet à long terme. Mais ouais, pour une saison pour repartir sur un nouveau projet, moi je me dis pourquoi pas finalement.
Je pense que AG2R n'est pas forcément sur le déclin, au sens qu'ils voient l'arrivée d'un nouveau sponsor, Citroën, qui leur accorde 10 millions d'euros de budget annuel, ce qui fait que AG2R s'impose de plus en plus comme une équipe à dimension internationale. Ils se reposaient, et ça se voit aussi dans les arrivées. On va chercher un coureur belge, un coureur néerlandais. Et en même temps, c'était deux cadres, deux coureurs français qui partent. Donc, non, je pense que, oui, comme Hugo l'a dit, un projet à court terme qui peut peut-être se développer beaucoup plus qu'on ne le pense avec l'arrivée des gros sous-titres, ouais, voilà, tout simplement.
Ouais, après, pour finir là-dessus, c'est vrai qu'au niveau du budget, c'est assez fort du côté d'Agir de l'Air Mondial. Est-ce qu'au niveau de l'attractivité, on va dire, des coureurs, ils avaient le moyen d'aller chercher mieux que Van Avermaet, que Jungels? Pas sûr au niveau de l'attractivité de l'équipe.
Ouais, surtout en période Covid, peut-être que ça n'a pas osé trop se mouiller d'avoir des répercussions derrière.
Maintenant, on va un peu changer de sujet. On va parler maintenant, selon vous, quelle est l'équipe qui a fait le pire mercato?
Selon moi, l'équipe qui a fait le pire mercato, ça reste pour le moment BNB. Dans le sens où il n'y a pas vraiment de contour sur le projet. On ne voit pas vraiment où Jérôme Pinault veut en venir. Après, ça reste une équipe qui est assez récente, donc on ne va pas non plus les blâmer. Mais je ne comprends pas quel est l'intérêt de recruter des coureurs juste pour les recruter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de construction et d'idée derrière leur recrutement.
Mathieu, je sais que tu voulais réagir aussi là-dessus.
Ouais, je voulais réagir là-dessus parce que moi, j'ai eu la chance mercredi d'assister à la conférence de presse de Jérôme Pinault pour l'arrivée de Franck Bonamour. Et justement, je vais rappeler un peu sur ça. Et enfin, il y a eu une phrase surtout qui m'a marqué, qui m'a dit moi, je préfère gagner une petite course en Bretagne qu'un tour de Pologne ou qu'un tour de Chine ou qu'une course en Italie. Mais juste derrière, il réaffirme sa volonté de monter en World Tour. Mais c'est pas en gagnant les petites courses en Bretagne ou en les manches de Coupe de France que l'équipe va passer un cap, en fait. Parce que miser surtout sur des coureurs comme Tom Yates de Sacteur, comme Arthur Lichaud pour lever les bras. Mais au final, c'était des grosses déceptions pour diverses raisons. Et j'ai le sentiment qu'ils recrutent jamais un coureur qui gagne, en fait. Ils recrutent toujours des coureurs qui sont plus ou moins bien placés, mais souvent moins bien placés. Et en soi, oui, voilà, je suis assez d'accord avec Hugo. Je trouve qu'il y a il y a plus un projet identitaire en soi où on se dit on va rassembler le cyclisme breton plutôt qu'un projet sportif qui amène quelque chose dans les résultats.
Après, moi, je vais essayer de défendre un peu vite le concept. Moi, je trouve sur le dernier Tour de France, ils ont pas à rougir. Ils font un très beau tour. Donc, je pense qu'ils essayent aussi de faire avec les moyens du bord. Donc, oui, après, Franck Bonamour, c'est pas ce qui fait rêver. Mais bon, au moins, ils ont le mérite d'exister, je trouve, par rapport à Direct Energy cette année qui a été vraiment, mais nul. Et ouais, je trouve qu'ils arrivent quand même à exister avec ce mercato, quand même.
Je suis d'accord avec toi, Eloi, mais ils se reposent sur un seul coureur qui est Brian Cocquart, en fait. Et en soi, tu dis qu'ils ont été assez... Ils ont réalisé un bon Tour de France, mais ils ont réalisé un bon Tour de France en soi juste en prenant les échappées. Mais j'ai pas le souvenir, à part Brian Cocquart, j'ai pas le souvenir qu'ils aient fait beaucoup de top 5, top 10, outre Brian Cocquart.
Ouais, je suis assez d'accord avec Mathieu. Si l'objectif, comme le dit Jérôme Pinault, c'est d'aller chercher le World Tour à moyen terme, va falloir avoir un peu des coureurs qui gagnent. Et c'est pas forcément le cas avec Franck Bonamour, mais Jonathan Hiver, Cyril Lemoine, voilà, c'est aussi assez vieux. C'est vrai que ça fait très français et finalement pas forcément très dans l'optique d'aller chercher le World Tour à moyen terme.
Et moi, je voulais revenir sur, on n'a pas parlé encore de la Groupama FDJ. Ils font quand même une grosse fin de saison quand même avec les victoires d'Arnaud Démare et de David Godu sur la Vuelta notamment. Alors, ils n'ont pas beaucoup recruté, mais ils ont prolongé pas mal de leurs cadors. Je pense à Arnaud Démare, Godu, Kung et Pinot jusqu'en 2023 et dans une moindre mesure Rudy Mollard en 2024. Est-ce que la Groupama FDJ est un peu en train de s'imposer quand même comme un cador du peloton avec ses bons coureurs?
Oui, selon moi, oui. La FDJ est en train de s'imposer comme un des cadors. Je dirais peut-être pas jusque-là. Mais la FDJ est en train doucement de gagner du terrain, de s'installer dans le peloton. On l'a vu avec les victoires, comme tu l'as dit, d'Arnaud Démare et de David Godu. Mais le problème qui manque à la FDJ et ce qui fait la différence par rapport à un cador du peloton, parce que pour moi, les cadors, ce serait plutôt Ineos, forcément, ou encore la Jumbo-Visma. Et la différence entre FDJ et ces équipes-là, c'est que chez FDJ, il nous manque des équipiers, il nous manque des coureurs. Alors oui, on a de très bons coureurs, hein, Thibaut Pinot, Arnaud Démare, mais à côté, pour les entourer, on n'a pas autant de qualité qu'un Primoz Roglic peut avoir chez Jumbo-Visma ou un Carapace chez Ineos.
Oui, bah, je trouve que la pour pas mal FDJ, elle fait un mercato dans la continuité, du projet où on se base sur, sur Arnaud Démare qui est pour moi l'un des top 3 sprinteurs du monde. Pourquoi bouger quand ça réussit, j'ai envie de dire. Ok, il croit toujours en Thibaut Pinot, ça reste un très bon grimpeur qui est. Ça reste un très... Oui, pour moi, la Groupama FDJ est dans la continuité de ce qui s'est très bien fait en 2020. Oui, pour moi, c'est un bon mercato dans la continuité, ouais, tout simplement.
Ouais, je suis assez d'accord. Il joue la continuité, il joue éventuellement aussi l'arrivée de quelques jeunes de leur équipe Conti. Ouais, faire confiance à Démare, évidemment, c'était la bonne solution. 14 victoires la saison dernière, il est ouais, énorme. Après, pourquoi pas faire encore plus confiance à David Godu, qui va forcément s'imposer sur les prochaines saisons et dès la saison prochaine comme un leader. Ouais, c'est intéressant ce que fait Groupama FDJ, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit mes compères.
Merci les gars pour ce débat. On suivra donc avec attention les performances des équipes françaises sur cette prochaine saison. Et on regardera bien sûr si le mercato s'est avéré payant ou non pour nos équipes françaises. On passe maintenant à la chronique de Thomas Palmier qui fait le point avec nous sur cette semaine un peu folle, on va dire, de l'équipe de France féminine de football. Le conflit Amandine Henry-Corinne Diacre a notamment fait parler la poudre.
Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!
Attention!
Dessus! Non! C'est pas possible!
Oh les gars, c'est l'heure du briefing!
En effet, Eloi, la situation en équipe de France féminine est loin d'être idéale depuis ces quelques jours, une semaine bien agitée du côté de l'équipe de France, avec donc le 15 novembre dernier, au micro du Canal Football Club, à la milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et international Amandine Henry, qui allume véritablement Corinne Diacre en évoquant leurs problèmes relationnels et en appuyant les propos de Reynald Pedros, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais, devenu consultant pour Canal+, sur ce sentiment de mal-être qu'observeraient certaines filles au moment de arriver en sélection. Elle ne serait pas heureuse à l'idée de rejoindre la sélection française. Donc ces déclarations le 15 novembre dernier de Amandine Henry seront suivies par la suite de nombreuses réactions, notamment de Élise Busaglia, ancienne internationale aux 192 sélections, qui affirme dans la foulée qu'il y a des torts partagés, que ces torts sont de deux côtés et n'accordent pas à la seule sélectionneuse la responsabilité de l'ambiance actuelle en équipe de France le 19 novembre dernier. Donc au cours de cette semaine un peu folle pour l'équipe de France, la liste de Corinne Diacre pour les deux matchs de qualification au prochain Euro qui vont se disputer d'ici quelques jours, et donc le coup près tombe au moment de cette liste de Corinne Diacre le 19 novembre dernier. Un climat de tension donc entre les joueuses et la sélectionneur de l'équipe de France qui remonte évidemment à bien des mois, qui n'est pas donc nouveau. En ce mois de novembre 2019, on peut remonter évidemment à l'élimination en quart finale du mondial en 2019 en France, peut-être le point de départ de tous ces événements qui se déroulent depuis ces derniers mois, avec fin juillet, un mois après la fin de ce mondial et l'élimination de l'équipe de France. Sarah Bouani, la gardienne de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais, 33 ans, 149 sélections, qui déclare vouloir faire une pause dans son aventure avec l'équipe de France, en tout cas tant que Corinne Diacre sera en place. C'est dire le climat de tension qui règne entre les joueuses et la sélectionneur Corinne Diacre, surtout principalement entre les joueuses de l'Olympique Lyonnais et Corinne Diacre. On en revient donc à ce mois d'octobre 2020, avec Corinne Diacre qui ne sélectionne pas Amandine Henry pour des raisons, dit-elle, sportives. Amandine Henry qui est capitaine depuis 2017 de cette équipe de France, à 31 ans, 92 sélections pour la milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Donc Corinne Diacre qui ne sélectionne pas Amandine Henry pour ce rassemblement du mois d'octobre pour le compte des matchs de qualification à l'Euro 2022 qui allait se disputer à ce moment-là par l'équipe de France. Deux jours avant l'annonce de cette liste, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, qui s'était rendu à Lyon pour une remise de médaille aux Lyonnaises suite à leur sacre européen en Ligue des Champions, le 5e de suite lors de la saison 2019-2020. C'était l'occasion pour alors les Lyonnaises, en l'occurrence en tête Wendy Renard, de pouvoir faire un point sur la situation avec le président de la Fédé, de faire passer quelques messages à Noël Le Graët. Deux jours plus tard, après donc l'annonce de la liste, le 17 octobre dernier, Wendy Renard qui réagit au micro de Canal+, je cite, « Il faut ramener de la sérénité, que tout le monde soit clair, on ne peut pas continuer comme ça, on se fait du mal entre nous », fin de citation. Et donc, quelques minutes plus tard, dans la foulée, Amel Majri, la latérale de l'Olympique Lyonnais également internationale, 27 ans ou 46 sélections, a elle aussi manifesté son incompréhension quant à la non-sélection d'Amandine Henry au mois d'octobre donc 2020. Et puis donc vient ce mois de novembre avec le 15 novembre dernier, Amandine Henry qui fait donc cette déclaration fracassante au micro du canal Football Club, le 19 novembre dernier donc, Corinne Diacre qui donc donne sa liste le jeudi 19 novembre pour les deux matchs de qualification au prochain Euro. Et donc finalement donc, vous l'avez entendu, Amandine Henry qui est à nouveau rappelé par Corinne Diacre. Ça vient donc clore un gros mois de tension, de remous dans cette équipe de France féminine de football qui a fait malheureusement parler d'elle plus en dehors du terrain que sur le terrain. Est-ce que cette situation est vraiment regrettable pour l'équipe de France féminine? On a posé la question à Anne-Laure Salvatico, journaliste à Canal+, et commentatrice notamment de nombreux matchs de la D1 Arkema. Je vous propose d'écouter l'analyse d'Anne-Laure Salvatico sur cette situation en équipe de France.
Je ne sais pas si c'est vraiment dommageable, parce que c'est aussi preuve que le football féminin grandit, prend de la place. Ouais. Donc, je ne sais pas, c'est sûr que d'un point de vue interne, j'imagine que c'est dommageable. Après, c'est le foot féminin qui grandit, et avec tout ce qu'on a pu voir pendant la Coupe du Monde à l'été 2019, tout l'aspect très positif d'une équipe qui grandit, donc des stades qui se remplissent, un intérêt médiatique plus important, et comme dans tous ces moment-là, il y a aussi les dérives, et forcément autour de ces équipes, de l'équipe de France, parfois, et oui, il y a des accrochages, des choses qui vont moins bien, ça prend de la place médiatiquement, c'est ce que je me disais cette semaine. Il y a eu deux unes de l'équipe, je crois, sur l'équipe de France féminine. Je me disais, il y a quelques années, c'était impensable. Il y a deux ans, Canal+ diffusait en prime time son premier match de foot féminin. Hier, c'était un premier match de D1 au Parc des Princes. Enfin, voilà, tout ça grandit, et avec tout ce qui va avec, et c'est pas toujours du positif.
Et voilà pour l'analyse de la journaliste Anne-Laure Salvatico de Canal+, qui suit régulièrement le football féminin. Mais peut-on trouver vraiment, réellement des raisons à cette crise? Oui, à en croire les joueuses lyonnaises qui sont au cœur du conflit avec Corinne Diacre, qui, selon elle, est responsable de cette crise, notamment en retirant le brassard à Wendy Renard dès son arrivée en équipe de France, et puis en émettant de nombreuses critiques sur le positionnement de sa joueuse Eugénie Le Sommer lors du Mondial 2019. Voilà Corinne Diacre qui aurait eu des faits et des attitudes contraires selon les Lyonnaises, donc au bon épanouissement et à la bonne entente au sein de cette équipe de France. Voilà donc pour le point au niveau de cette équipe de France et du climat actuel.
Merci Thomas, on espère de tout cœur que la situation va s'améliorer au sein de l'équipe de France féminine de football. Et espérons vraiment qu'une meilleure ambiance revienne entre les joueuses et la coach Corinne Diacre. En tout cas, rassurez-vous, chez nous, chez les Olympistes, il y a toujours de la bonne humeur, toujours de la rigolade. On vous propose donc un deuxième débat, et cette fois-ci, on parle Formule 1 et notamment de Lewis Hamilton.
Non, mais arrêtez. Mais tu dis n'importe quoi.
On a le droit de pas être d'accord. Je vais te rentrer aussi dans la gueule.
Tu veux toujours avoir raison.
Mes amis.
Ça, c'est des faux débats, ça.
Décidément, on vous régale sur ce deuxième podcast, puisque ce n'est pas un, mais deux débats qu'on vous propose. Cette fois-ci, on ne parle pas vélo, mais sport automobile avec la F1. La semaine dernière, à Istanbul, le Britannique Lewis Hamilton a remporté la 94e victoire de sa carrière et s'offrant ainsi une 7e couronne mondiale. Il égale par la même occasion le record de l'Allemand Michael Schumacher. Mais avant d'entamer le débat, laissez-moi vous présenter l'écurie automobile des Olympistes, si on peut dire comme ça. J'espère qu'ils seront aussi performants que Mercedes. Du coup, j'ai avec moi Thomas Fraisse. Salut Thomas, ça va?
Ça va et toi?
Très très bien. Mais j'ai aussi Lucas Charpio. Salut Lucas, ça roule?
Tout va bien, mais ça roule, bien sûr, puisqu'on parle de F1.
Bah nickel. Et enfin, Nils Gobardhan. Salut Nils, ça va?
Salut, bonjour à tous.
Alors du coup, je l'ai dit en introduction, Lewis Hamilton a égalé le record de Schumacher avec 7 titres mondiaux. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'Hamilton est le plus grand pilote de tous les temps?
Alors, plus grand pilote de F1, peut-être pas. Il fait évidemment partie de l'histoire. 7 titres mondiaux, c'est énorme. Il égale le Baron Rouge, peut-être le plus grand pilote de F1, Michael Schumacher. Après, la comparaison avec lui, elle est un peu, comment dire... Je la comprends, mais en même temps, c'est pas la même époque, c'est pas la même ère. Lewis Hamilton a piloté pendant l'ère hybride. Michael Schumacher, c'était pas l'ère hybride. Est-ce que on peut faire des comparatifs sur des gens qui n'ont pas piloté pendant la même période? Mais en tout cas, évidemment, il écrit l'histoire, il est incroyable, il fait du bien à la Formule 1. C'est quelqu'un qui représente parfaitement cette industrie, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Et non, grand plaisir de le voir piloter. J'espère que ça va continuer longtemps.
Ouais, Thomas, tu veux réagir ?
Ouais, je veux réagir sur ce que Lucas a dit. Il a dit qu'on ne pouvait pas tellement comparer les deux pilotes, ce qui est vrai puisque c'est deux époques différentes. Mais on peut aussi comparer le fait de l'adversité plutôt. Par exemple, chez McLaren, Hamilton en 2007-2008 galérait beaucoup plus à l'image de Michael Schumacher chez Benetton. Puis après, quand ils sont arrivés chez Ferrari et Mercedes, on a quand même un point commun de facilité un peu.
Bah, alors moi, je suis pas totalement d'accord parce qu'il a quand même Bottas en face de lui, enfin en face de lui dans la même écurie que lui, alors que Schumacher avait plutôt les portes ouvertes, on disait à son coéquipier un peu de le laisser passer à chaque fois, alors que Bottas, c'est pas le cas du tout. Ils sont en compétition permanente et Hamilton a aussi d'autres coureurs avec lui, comme Vettel, qui sont d'une classe entre guillemets internationale quand même. Donc on peut difficilement dire que Hamilton n'a pas le niveau qu'avait Schumacher à l'époque.
Sur le duel Hamilton-Bottas, là, je suis pas d'accord, parce que Bottas est quand même très, très effacé. Hein. Pas se mentir. Enfin, moi, je fais pas partie des détracteurs de Bottas, je sais qu'il y en a pas mal sur les réseaux. Moi il me fait un peu de peine, ce garçon. Très talentueux, mais Hamilton est devant, et c'est un peu... Enfin, je sais pas si le comparatif est bon, mais c'est un peu comme chez Red Bull. Il n'y a pas de place pour un pilote numéro 2 chez Red Bull. L'écurie est centrée autour de Max Verstappen. Mercedes est évidemment centrée sur Lewis Hamilton. Et on le voit très bien que les stratégies sont centrées autour de lui, bien que la règle chez Mercedes est que c'est le pilote qui est devant qui a, par exemple, la priorité sur les passages au stand, etc. Mais on sait pertinemment que Bottas est numéro 2 et il a du mal à s'imposer dans les duels, etc. C'est un peu la même situation qu'avec Nico Rosberg.
Moi, je voulais réagir. Ouais, sur Bottas, t'as totalement d'accord, il fait un peu de la peine. On lui a même demandé 2-3 fois de laisser passer Hamilton, ce qui est complètement l'image de Ferrari des années 2000. Et donc, même si la stratégie fait que c'est le premier dans la course qui s'arrête avant, faut pas se leurrer. S'il y a moyen de faire gagner Hamilton, ils feront gagner Hamilton. Cependant, tu as dit que Bottas était comparable à Rosberg. Moi, je pense pas, puisque Rosberg et Hamilton, c'était beaucoup plus une lutte d'ego. Il y avait une plus grosse lutte, même si Rosberg s'est fait battre pendant 2 saisons, même 3 saisons, je pense. Non, la comparaison, elle s'arrête là, puisque même si Rosberg était moins bon qu'Hamilton, il y avait quand même une bataille. Il y avait vraiment des dépassements, etc. Et à ce moment-là, Mercedes se cachait pas. Elle avait 2 pilotes numéro 1. Et elle faisait pour faire gagner les deux. Voilà.
Ouais, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Thomas. C'est vrai que Rosberg, il a quand même gagné un titre pendant l'ère Hamilton. Et Hamilton a su également se démarquer chez McLaren, alors qu'il avait Fernando Alonso, qui était quand même le numéro 1 de l'époque de McLaren. Donc, Hamilton, il a quand même fait ses preuves sans que son écurie, forcément, lui laisse les portes grandes ouvertes à chaque fois, comme Schumacher avec Ferrari. Même si, désormais, avec Mercedes, il est un peu le pilote numéro 1 officiellement.
Peut-être qu'on peut dire qu'après l'ère Rosberg-Hamilton, il y a eu plutôt un recentrage de l'écurie sur un seul pilote pour anéantir les guerres d'ego. On a vu ça sur les rumeurs de transfert de Vettel à Mercedes et que Toto Wolff ne voulait absolument plus revivre une guerre d'ego, une guerre entre deux pilotes numéro 1. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un tournant en 2017 avec l'arrivée de Bottas.
C'est vrai, après, je pense qu'en 2017, on pouvait peut-être s'attendre que Bottas lutte face à Hamilton. Que... Oui, on pouvait s'attendre à une bataille entre les deux. Après, voilà, Hamilton a pris le dessus. Et puis, comme Thomas le disait, Mercedes est centrée sur Lewis Hamilton. Il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre.
Du coup là je vous écoute et donc je trouve que cette année quand même Hamilton il a écrasé la concurrence, il finit avec de mémoire 110 points d'avance sur le second Bottas et je sais plus combien de points d'avance sur le troisième Verstappen. Est-ce que en fait vraiment cette année est-ce qu'il y avait quelqu'un pour concurrencer Hamilton? Est-ce qu'il était seul au monde?
Ah, complètement seul au monde, complètement. Mais ça c'est depuis 2018 on a cru que Vettel pouvait accrocher Hamilton. Parce qu'on savait que Bottas n'allait jamais le toucher de toute façon. Mais on a cru que Vettel pouvait se rapprocher d'Hamilton. mais a fait des erreurs de pilotage. Classique pour Vettel en ce moment. Mais cette année, franchement, avec les Ferrari qui sont de moins en moins performantes, les Red Bull, même si elles sont la deuxième force du plateau, qui sont un cran en dessous de Mercedes, et que Bottas, quoi qu'il fasse, il n'aura jamais le niveau de Hamilton. Hamilton avait vraiment un tapis rouge devant lui, mais c'était cadeau cette année.
Je m'attendais, je me permets de prendre la parole, je m'attendais peut-être à une adversité de Verstappen, à Verstappen qui montre de plus en plus de choses, mais je trouve qu'il a fait pas mal d'erreurs cette saison. Je trouve qu'il y a eu pas mal d'erreurs, il n'a pas été très chanceux cette saison. Donc oui, Hamilton seul au monde, et je pense que l'année prochaine sera pareil. En 2022, avec le nouveau règlement FIA, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose ? Là, très sincèrement, pour cette saison et pour la saison prochaine, Hamilton seul au monde. Je pense qu'on peut très clairement s'attendre à ce que Hamilton décroche son 8e titre de champion du monde en 2021. Et on verra en 2022. Mais là, il est seul au monde. Il n'y a personne pour le concurrencer.
Moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est incontestable cette année encore. Il est le maître sur la piste. Bottas, qui a la même voiture que lui, n'est pas capable de faire les mêmes choses que lui. Et les Red Bull derrière sont... c'est pas les mêmes voitures que Mercedes, donc ils sont largement en dessous et ils l'ont prouvé. Et Verstappen a fait des erreurs, comme Lucas l'a dit, cette saison, donc c'est incontestablement lui le maître. Et s'il est encore là l'année prochaine, ce qui n'est pas sûr à 100%, je pense qu'il est bien parti pour un 8e titre.
Si, il sera l'année prochaine.
Justement, je voulais en venir là. Pour l'instant, Hamilton s'est pas exprimé. Hein. Certains, justement, parlent de retraite. Est-ce que pour vous, le Britannique va prendre sa retraite ?
C'est un coup de com'. J'y crois, alors là, j'y crois même pas une demi-seconde. C'est un gros coup de com'. On sait à quel point Hamilton est compétiteur. On sait à quel point Hamilton a envie de battre tous les records. Et oui, non, mais il sera là en 2021. Moi, je me pose même pas la question. Et puis, Mercedes compte tellement sur lui. C'est tellement compliqué. Imaginez la panade, hein, dans laquelle Mercedes serait si Hamilton quitterait l'écurie. Non, Mercedes ne peut pas se passer d'Hamilton, et Hamilton, je vois pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a encore plein de records à briser. Il y en a plus beaucoup, parce qu'il les brise tous. Hein. Mais non, c'est un gros coup de com'.
Vas-y, Thomas, je sais que tu veux réagir.
Ouais, moi, je suis un peu d'accord, c'est peut-être un coup de com'. Pareil, mais il y a quand même une question. C'est que cette année, on a découvert un Hamilton beaucoup plus engagé dans l'extra-sportif. Même s'il l'était déjà avant, mais cette année encore plus avec Black Lives Matter. Et en fait, on se demande un peu si la F1, c'est vraiment toute la vie d'Hamilton. Par exemple, on sait que quand Rosberg est parti de la F1, il aurait pu continuer, mais il avait autre chose dans sa vie que la F1. Vettel et Raikkonen, c'est l'inverse. Eux, ils sont 100% pour leur carrière, etc. Mais Hamilton, on a un peu des doutes en ce moment, vu ce qu'il publie sur les réseaux, etc. Donc, pour moi, ça serait totalement incroyable qu'il arrête. Et même, il est approche des 100 victoires. Il ne faudrait pas qu'il arrête. Mais on peut se poser la question quand même.
Alors oui, parce que c'est vrai que Hamilton, il est quand même aux portes de battre définitivement Schumacher. Là, il l'a égalé. Et donc, il n'y a pas de raison pour qu'il ne continue pas pour viser un 8e titre. Mais c'est vrai, comme l'a dit Thomas, il est de plus en plus engagé. Il y a eu Black Lives Matter cette année. Il y a l'écologie aussi à quoi il tient énormément. Et il a précisé dans une interview que l'écologie auquel il veut être, il veut se montrer engagé. Et ça ne correspond pas avec l'image qu'on a d'un pilote de F1. Et donc, du coup, pourquoi pas délaisser un peu la F1. Peut-être pas cette année, en tous les cas, on n'espère pas. Mais c'est peut-être dans ses projets.
Moi, justement, ma dernière question, si Hamilton, bon, on ne sait pas ce qu'il va dire, si Hamilton prend sa retraite, pour vous, qui gagnera la saison prochaine ?
Ah ouais, donc là, c'est scénario fantasy booking.
Faut rêver. Alors, faut peut-être pas rêver, mais faut imaginons.
Ah, moi, j'aime pas rêver. Moi, je broie du noir tout le temps. Mais honnêtement, c'est compliqué. Moi, je vois pas Bottas gagner. Moi, je le redis une deuxième fois, moi, Bottas, il me fait de la peine, ce garçon. Bottas, je sais pas, j'ai envie de le caresser, le rassurer, ce garçon. C'est tellement compliqué de le voir ne pas s'imposer dans les duels. Mais honnêtement, saison prochaine, je pense qu'on peut écarter Ferrari. Ça s'arrangera pas la saison prochaine. Je pense que si Hamilton part, la voie est ouverte pour Max Verstappen. Je vois pas qui peut s'imposer autre que Max Verstappen?
On peut écarter Ferrari, oui et non, parce qu'on va voir ce que donnent leurs innovations moteurs juste avant la fin de saison, puisqu'on rappelle que l'année prochaine, on garde les mêmes châssis, les mêmes moteurs bloqués à la fin de saison, à la fin de cette saison 2020. Mais on va voir du coup Ferrari, t'as raison, peut-être qu'ils reviendront jamais, Ferrari, enfin en tout cas en 2021. Mais moi je pense surtout que si Hamilton part, ça va laisser une porte ouverte chez Mercedes à Russell. Et un Britannique peut en succéder un autre. Parce que franchement, à voiture égale, je vois pas non plus Bottas mettre une, battre Russell. Russell, il est talentueux, etc. Il fait quelques erreurs. Mais je pense que Russell serait une super recrue si Hamilton devait partir de Mercedes. Mais Verstappen, bon, on peut être surpris. Pourquoi pas Red Bull? Mais bon, ça dépendra aussi s'ils veulent faire une dernière année en apothéose avec Honda.
Oui, parce que Honda, oui, non, Honda, c'est pas cette saison, c'est la saison d'après. Mais après, c'est tellement triste de voir une écurie autant centrée sur un pilote qui n'arrive pas à s'imposer. Là, s'il vous plaît, faites gagner Max Verstappen. C'est pas possible.
Oui, c'est sûr que Verstappen, ce serait le choix le cas le plus plausible pour l'année prochaine si Hamilton n'est plus là. Mais il y a Charles Leclerc aussi qui, si Ferrari donc, arrive à s'imposer de nouveau, il y a Charles Leclerc hein, qui a fait une très bonne saison. On pourrait y croire. Ou sinon, pourquoi pas Romain Grosjean, on peut aussi y croire.
Charles Leclerc, il conduit un tracteur. Charles Leclerc, il fait du Farming Simulator. Là, ça fait un an, il est sur Farming Simulator.
Après, on est tous d'accord pour dire que si Hamilton part... Bon, Vettel, je pense pas qu'avec Aston Martin, on reviendra au niveau, enfin, directement, en tout cas. Mais on est tous d'accord que si Hamilton part, ça sera un jeune, ça sera soit un Norris, un Russell, un Leclerc, un Verstappen qui prendra la relève. Ça va tourner une page, quoi.
Une génération, alors même si c'est pas le débat, une génération qui fait énormément de bien, je le dis tout le temps sur Twitter, mais cette génération, Russell, Norris, Leclerc, Gasly, enfin, c'est une génération qui fait du bien. Des jeunes qui brisent les codes. On n'a jamais vu des pilotes autant proches de la communauté Formule 1, de leurs fans, etc. Et c'est vraiment une génération qui fait du bien, autant sur les circuits qu'en dehors.
Merci les gars pour ce très beau débat. Et bien sûr, on suivra attentivement la situation de Lewis Hamilton pour savoir s'il sera présent ou non au volant de la Mercedes la saison prochaine. Voilà, c'est maintenant la fin de cette deuxième émission Planète Sport que vous pouvez retrouver sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas également à jeter un petit coup d'œil à notre site internet http://lesolympistes.com. On vous réserve notamment une très belle surprise, croyez-moi, pour le mois de décembre avec un calendrier de l'Avent version sport. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis à très vite mes amis sportifs et sportives. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport !